En 1669, le roi Louis XIV fait lui-même arrêter un homme et ordonne de cacher son identité à jamais. Il lui fait interdire de parler et ordonne aux gardes de le tuer s'il tente de le faire. Il lui impose un unique geôlier, Monsieur de Saint-Mars, comme seul contact avec le monde. En 1687, un homme, transporté dans une chaise à porteurs totalement recouverte, arrive à la prison de Sainte-Marguerite. Son visage est caché derrière un masque de fer. En 1698, l'homme au masque de fer, toujours accompagné de son geôlier, arrive à la prison de la Bastille. Il y meurt le 19 novembre 1703. Son enterrement met fin à une période de détention de 34 ans. Pourquoi? Quel est son secret? Quel était son crime? Qui était caché derrière le masque de fer? Bien, pour nous plonger dans l'histoire du masque de fer, pour le moment nous allons rester au niveau des faits historiques, en revenant sur quelques questions qui sont fréquemment posées. La première d'entre elles qu'on se pose, c'est est-ce une réalité ou est-ce une légende? Le masque de fer a-t-il vraiment existé? Oui, le masque de fer a existé. On a plusieurs traces historiques, des récits qui nous parlent justement d'un homme qui a été aperçu par, revêtant un masque de fer. À plusieurs reprises, ça c'est un fait qui est avéré. Après, la question qu'on se pose souvent, c'est était-ce un masque de fer ou un masque de velours? A priori, c'est difficile de trancher, étant donné qu'il ne portait pas en permanence, on pourrait penser qu'un masque de fer, s'il le portait en permanence, un masque de fer, ce serait impossible à porter en permanence parce que ça engendrerait des problèmes de peau, des problèmes de respiration de la peau, donc ça serait vraiment pas possible. Un masque de velours, oui, ça serait plus agréable et en plus ça aurait la même fonction de cacher le visage. A priori, là on sait pas trop si c'était un masque de fer ou de velours, mais finalement ça n'a pas vraiment d'importance. Est-ce qu'il le portait constamment? Sur les 34 ans de détention, on relève seulement 16 ans où il a porté, où il a été vu avec ce masque de fer, et uniquement quand il était en contact avec d'autres personnes. Donc a priori, non, il ne le portait pas constamment. Est-ce que c'était pour cacher son visage qui était hideux? Non, c'était pas vraiment pas quelque chose qui avait un rapport avec une malformation, c'était vraiment pour cacher son identité. Est-ce que cet homme a été jugé? Alors non, justement, il n'a pas été jugé. Comme le crime dont il était accusé était une affaire d'État, il a été emprisonné sur une simple lettre de cachet, signée par le roi Louis XIV, ce qui en plus a renforcé, le symbole de la tyrannie. Des rois qui faisaient tout simplement enfermer des gens sur simple volonté au final. Faisons maintenant la liste des hypothèses envisagées quant à son identité, des plus réalistes aux plus loufoques. La première hypothèse qui est la plus connue aussi, la plus célèbre, parce que c'est celle qui a été popularisée par Alexandre Dumas dans son roman Le Vicomte de Bragelonne, qui est la suite des Trois Mousquetaires et qui a été ensuite reprise dans le film avec Leonardo DiCaprio dans les années 90, c'est l'hypothèse du frère jumeau du roi. Alors pour chaque hypothèse, on va voir pourquoi on pourrait y croire et pourquoi c'est finalement peu probable. On pourrait y croire parce que déjà c'est l'hypothèse la plus romanesque, c'est celle qui fait le plus rêver. Et de plus, certains témoignages, légendes, après c'est encore difficile de faire la part des choses, rapportent que cet homme au masque de fer était traité comme une personne de la cour. On lui donnait les meilleurs dîners, on lui donnait des plus beaux vêtements. Il avait donc il recevait des visites de personnes prestigieuses. On parle de lui comme d'un jeune homme grand, beau, de bonne tenue, de belle éducation, qui savait parler. Et enfin, seul le visage du roi était connu de tous. C'est d'ailleurs ce qui posera problème plus tard à Louis XVI lors de sa fuite à Varennes où il fut reconnu parce que tout le monde connaissait son visage étant donné qu'il apparaissait sur toutes les pièces. Donc il aurait constitué une vraie menace pour la légitimité du roi en tant que frère jumeau. L'autre hypothèse qui se rapproche beaucoup de celle-ci, c'est l'hypothèse du frère illégitime du roi. C'est celle qui est préférée par Voltaire, des grands auteurs français, et qui, selon cette hypothèse, se basant sur le fait que Louis XIV et sa femme ont passé beaucoup d'années sans donner d'héritier au trône de France, dans cette hypothèse, la femme de Louis XIV aurait eu un enfant illégitime pour vérifier si elle était stérile ou non. Et donc cet enfant qui était né avant Louis XIV aurait été une vraie menace pour la légitimité du roi. Bon, ces deux hypothèses sont assez improbables parce que cela signifierait qu'ils auraient pu le cacher depuis sa naissance. Or, la vie du roi est totalement publique. Entre les serviteurs, la cour, les nobles, tout le monde visite le palais royal. Donc c'était vraiment pas possible de cacher surtout un enfant et encore moins un jumeau à cette époque-là. C'était vraiment ça aurait été impossible de cacher un jumeau. La deuxième hypothèse, la deuxième grande hypothèse, c'est celle qui met Nicolas Fouquet sous le masque de fer. Nicolas Fouquet, c'était l'administrateur du royaume. En gros, c'était le ministre des Finances. Il était très puissant, très riche, peut-être plus que le roi. Louis XIV en était très jaloux parce que le château de Vaux-le-Vicomte, qu'avait fait construire Nicolas Fouquet, était plus luxueux que le Louvre où résidait Louis XIV à cette époque-là. Donc il en était extrêmement jaloux, à tel point qu'il fit arrêter Nicolas Fouquet pour crime de lèse-majesté en 1661 et détournement des fonds publics, etc., etc., et il le fit emprisonner en 1665 dans la prison de Pignerol, donc une des prisons où on trouve trace d'un homme au masque de fer, et il lui fit interdire de parler pour ne pas révéler de secrets du royaume qu'il avait en tant qu'administrateur du royaume. Officiellement, Nicolas Fouquet meurt en 1680, mais la légende dit qu'en réalité c'est un de ses serviteurs qui est mort, et que lui on l'a transféré à une autre prison sous le masque de fer. Pourquoi on aurait du mal à croire à cette hypothèse? Parce que si Nicolas Fouquet était mort en 1703, il aurait eu 88 ans, ce qui était énorme pour cette époque. On parle quand même de fin 17e siècle, début 18e siècle. C'est vraiment 88 ans, c'est vraiment beaucoup. De plus, la famille de Fouquet n'a jamais remis en doute sa mort en 1680. Voilà, tout le monde est OK là-dessus, donc il n'y a pas de raison de l'avoir caché. Et après, il y a d'autres hypothèses, plus ou moins crédibles. On parle de Molière, on parle d'un certain comte. Bon, après, l'intérêt de cacher ces personnes sous un masque de fer est tellement peu crédible vraiment, on a du mal à prendre au sérieux ces hypothèses. Non, récemment, on a eu vraiment une découverte qui maintenant semble faire consensus, dans l'attente peut-être de nouvelles découvertes bientôt. Et cette découverte s'intéresse bizarrement pas au masque de fer lui-même, mais à son geôlier, Bénigne d'Auvergne de Samart. Entrons donc avec lui dans la cellule pour essayer de trouver l'identité de ce masque de fer. Cette démarche de s'intéresser plus au geôlier qu'au masque de fer en lui-même peut sembler bizarre, mais vous allez voir qu'elle est pour moi tout aussi romanesque. En effet, de Saint-Marc a participé à la détention de Fouquet. Après son arrestation par D'Artagnan, qui était aussi lui un vrai personnage qui a existé, hein. Après son arrestation, après l'arrestation de Fouquet, sa mère l'a accompagné à la prison de Pignerol en 1665, où était enfermé aussi l'homme au masque de fer. Sa mère avait donc la noble charge de geôlier des ennemis du roi, en l'occurrence Fouquet et Lauzun. Lauzun qui était aussi une autre personne qui était détentrice de secrets d'État. Samar avait donc deux serviteurs, et l'un d'entre eux, un dénommé Eustache d'Auger, ou d'Angers, ça dépend, les écrits ne sont pas clairs là-dessus, sera aussi le serviteur de Fouquet en prison. Il sera assigné à la garde de Fouquet. Donc évidemment, il n'avait pas de masque, et puis bon, le traitement royal, donc ce serait plutôt une légende. Or, on a découvert un certain moment, après quelques temps d'incarcération, que Lauzun s'était fait un passage secret pour pouvoir communiquer avec Fouquet sans contrôle. Et donc ce passage secret a été découvert, et donc ils auraient pu communiquer entre eux, et donc possiblement le serviteur aurait pu entendre des secrets d'État. Et tout change en 1680. Alors que Fouquet meurt en prison, Lauzun finalement est libéré. Il est gracié par le roi et donc il est libéré. Donc en 1681, à la suite de ces événements, le roi demande à Saint-Mars, il le nomme gouverneur d'une autre prison qui s'appelle Exil, une prison sordide, vraiment pas du tout accueillante, qui fait vraiment pas du tout envie. Et il demande à Saint-Mars de transférer les deux serviteurs à une autre prison sans que personne ne connaisse leur existence, pour éviter qu'ils puissent influencer avec les éventuels secrets d'État qu'ils connaissaient. Donc il transférait à Exil. Exil, très bon nom en plus. Et bizarrement, là, ils n'ont pas encore de masque de fer. Ni l'un ni l'autre des serviteurs ne portent de masque. Et à Exil, un des serviteurs meurt. Donc il reste ce fameux Eustache d'Auger, on va l'appeler. En 1687, donc 6 ans après, Saint-Mars est transféré comme gouverneur de la belle prison de Sainte-Marguerite, qui est au large de Marseille, sur une très jolie île. Et il emmène donc avec lui, dans ses bagages, ce prisonnier, bon, qui est délicat, qui reste délicat, mais qui n'est plus si dangereux finalement. Saint-Mars, cherche la gloire. Il veut la gloire. Il y a encore, voilà, 6, 7 ans, un peu plus de 7 ans, au moment où Fouquet et Lauzun étaient encore emprisonnés, il était, lui, le geôlier des ennemis du royaume. Il avait une position importante, et ça, il veut pas être en charge d'un serviteur ou de prisonnier lambda. Il veut la reconnaissance, il veut la gloire, celle qu'il avait quand il gardait les prisonniers célèbres. Donc, il aurait inventé une mise en scène, une chaise à porteurs, et le masque de fer pour donner de l'importance et du mystère à son prisonnier. Il aurait fait organiser une chaise à porteurs où il a mis son prisonnier derrière un masque de fer, une chaise qui était totalement recouverte de tentures, avec des serviteurs, avec des porteurs, pardon, savoyards qui ne parlaient pas français. Donc tout a été orchestré pour faire croire qu'on transportait quelqu'un de vraiment très dangereux, qui possédait des secrets incroyables, des secrets d'État incroyables. Et on l'a fait transférer en plein jour. On a même fait des haltes où il descendait de sa chaise à porteurs pour pouvoir aller déjeuner, pour pouvoir aller manger avec son masque de fer. Manger, d'ailleurs, on ne sait pas trop comment il pouvait manger avec un masque de fer, mais bon. On met en scène son transfert. Et donc, il est emprisonné plusieurs années jusqu'à 1698, donc 9 ans après, 11 ans après, pardon, 11 ans après, pendant 11 ans, il est emprisonné à Sainte-Marguerite. Et en 1698, Saint-Mars est de nouveau dans les petits papiers du roi, et il est nommé gouverneur de la Bastille, la prison de la Bastille, qui est un des symboles du roi à Paris. C'est une prison aussi très sordide, très imposante dans le paysage parisien. Et Saint-Marc emmène encore une fois dans ses bagages son prisonnier, même s'il n'a plus aucune importance, ne représente aucun danger pour le royaume, parce que les secrets qu'il aurait pu connaître ne sont tout simplement, voilà, ne menacent tout simplement plus le roi. Mais pour Saint-Marc, c'est une nouvelle opportunité de montrer l'homme au masque de fer. Il organise donc son arrivée à Paris avec une sécurité très visible, alors qu'ils auraient pu le faire arriver discrètement, de nuit, voilà, dans une chaise, enfin voilà, tout simplement discrètement avec lui pendant la nuit, quand personne regarde, à l'abri des regards indiscrets, alors que là, il fait orchestrer son arrivée de jour, toujours dans une chaise à porteurs, avec un masque de fer, pour montrer au peuple que Saint-Marc est toujours le geôlier des grands criminels, l'homme des secrets. Donc, la conclusion, c'est que Bénigne d'Auvergne de Saint-Marc a utilisé ce serviteur pour rester dans l'histoire et rester dans les livres d'histoire comme le geôlier des grands ennemis du roi et de la nation. Et donc, il serait rentré dans l'histoire comme ça. C'est aujourd'hui une hypothèse qui fait consensus. Voilà, c'est une hypothèse que moi je trouve extrêmement romanesque et très extrêmement belle, parce que c'est une histoire de manipulation et de mise en scène et de théâtre finalement. Le seul mystère qui subsisterait encore, donc pour moi, c'est pourquoi Eustache d'Auger a été emprisonné avec tant de précautions au tout début par une lettre de cachet du roi. Et donc il a été fait serviteur après en prison. Il semblerait qu'il connaissait un secret national. On ne sait pas exactement lequel, mais ça pourrait être la décision de Charles II, le roi d'Espagne, de se convertir au catholicisme pour aider la France, alors en guerre contre les Pays-Bas, qui était un secret qui aurait pu faire changer. Un secret, une décision, et qui aurait pu faire changer le cours de la guerre contre les Pays-Bas et le cours de l'histoire en Europe à cette époque. Donc voilà, c'était ça, l'identité du masque de fer. Ce serait un serviteur qui a été utilisé par son geôlier pour entrer dans l'histoire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est romanesque ou pas? Voilà, c'est ainsi que se referme cette page d'histoire sur l'homme au masque de fer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ce nouveau format de podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans l'espace commentaire juste en dessous de cet article. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé faire ce premier podcast et j'espère pouvoir en faire encore bientôt sur d'autres, peut-être d'autres secrets de l'histoire de France. Si vos retours sont positifs, j'en ferai d'autres. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode et n'hésitez pas à lire les autres articles, les autres épisodes de votre saga Ton rêve de France qui continue sur profchopin.com. À bientôt et restez rêveurs.